Voilà, je voudrais commencer tout d'abord cet enseignement par une prière. Alors, c'est une prière qui a été assez connue, qui a reçu l'imprimatur du Saint-Père de Pie XI. Auguste reine des cieux, très connu, comme nous allons parler du serpent, justement une prière contre les esprits des ténèbres et les forces de haine et de peur. Auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous et gardez-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Et oui, on n'a plus tellement idée de ce monde invisible et qui pourtant nous entoure. Dieu est pourtant, nous le disons dans le credo, Dieu est créateur du monde visible et invisible. Je vous le disais ce matin, la grande ruse du serpent, c'est d'être caché, précisément. Vous savez, un serpent, on marche dessus parce qu'on ne le voit pas. Et c'est quand on a marché dessus qu'il nous a mordus, qu'on surprend finalement, qu'on est surpris à être mordu par lui. Eh bien, je vous propose donc cet après-midi de voir la physiologie spirituelle du serpent de la Genèse. La révolte de l'homme, que nous avons parlé déjà ce matin, c'est celle que nous relate le chapitre 3 de la Genèse. Eh bien, cette révolte, elle suit un mouvement analogue à celui qui précède l'homme dans sa révolte contre Dieu, à savoir l'ange Lucifer. Le porteur de lumière, lux ferré, celui qui porte la lumière, celui qui est chargé par Dieu de conduire, d'acheminer la création jusqu'à son plein accomplissement, son plein achèvement en Dieu. Ce n'est pas rien. Oui, mais l'ange Lucifer a donc, il a perverti, alors qu'il est bon, hein, tout ce que Dieu crée est bon. Mais nous l'avons vu ce matin, Dieu crée des êtres libres lorsque ce sont des créatures raisonnables. Il crée des êtres libres et donc l'ange aussi comme l'homme est libre et il peut pervertir sa bonté morale. Il ne veut pas entrer dans cette dépendance d'amour qui est pourtant inscrite dans son être même, dans sa création, et poser donc des limites, les limites qu'il peut poser. Précisément, en refusant d'accepter sa condition de créature. Alors le diable, il est présent dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Alors arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur la physiologie du serpent, que la Genèse appelle Arum. Ce qui veut dire à la fois le plus rusé, le plus astucieux, le plus roué, si vous voulez, mais aussi le plus nu. C'est les deux sens du mot hébreu « arum ». La perspicacité et la nudité. Ce n'est pas un hasard, mais une volonté de signifier que l'intelligence du serpent ne fait pas de lui le plus riche de tous les êtres du jardin, puisqu'il est le plus nu. Ah. Mais le serpent comporte d'autres caractéristiques fort signifiantes spirituellement. Tout d'abord, il rampe. Serpere en latin, ça veut dire ramper d'abord. Autrement dit, s'il rampe, eh bien, cela veut dire que la marque caractéristique de sa marche, c'est l'horizontalité. La verticalité, on pourrait dire, lui est étrangère. Le serpent ne connaît que la poussière du sol, autrement dit, la seule horizontalité de ce monde. Voyez, l'importance dans l'Écriture, on le voit avec Abraham, les prophètes et Jésus lui-même, l'importance de lever son regard vers le ciel. Combien de fois on l'a dans l'Écriture ? Il faut accepter de lever son regard vers le ciel, vers le Père et la transcendance de son royaume. Élever son regard, c'est élever son cœur vers Dieu, autrement dit le lui donner. C'est le sursum corda, vous savez, des Eucharisties. Hein ? Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, dit le prêtre avant la consécration. Voyez, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur, sursum corda. C'est autrement dit, c'est l'obéissance de la foi. Oui, mais le serpent de la Genèse en est incapable. Et oui, parce que le serpent, il est recroquevillé sur lui-même. Et la parole de Dieu, qui est pourtant vraie, et qui peut nous introduire dans le monde invisible de Dieu, eh bien, c'est une parole justement qui nous introduit au-delà de là où le serpent veut nous maintenir. Parce que le serpent vit recroquevillé sur lui-même. Et il ne veut pas entrer dans le monde invisible de la charité de Dieu. Le démon ne connaît pas, ne sait pas ce qu'est l'amour de Dieu. Il n'est jamais entré dans l'amour de Dieu. Ah non, ça c'est une erreur de croire que le serpent, Lucifer justement, il y a une épreuve de la liberté qui fait que précisément il n'a pas voulu entrer dans la perspective de la charité divine. C'est justement rebeller contre cette charité divine. Alors c'est intéressant de voir, notamment dans les initiations maçonniques. Finalement, on décrit le serpent non pas comme un être dont on doit se méfier, mais au contraire, c'est celui qui procure l'initiation. Vous savez, c'est cela dans... Eh oui, chez les francs-maçons, c'est le serpent, c'est celui qui produit la véritable du connaissance du monde, oui, mais du monde de la matière. Justement, coupé précisément de la transcendance divine. Oui, le serpent est maître en initiation. Intéressant pour le monde occulte. Dont nous ne prenons pas assez garde en ce moment. Nous pourrions d'ailleurs étendre ce pouvoir, puisqu'il s'agit d'un pouvoir initiatique, à nombre de dérives sectaires. C'est pour ça que je vous ai apporté le livre de Bertrand Chaudet, donc qui a beaucoup inspiré cette conférence cet après-midi. Bertrand Chaudet qui est conférence épiscopale pour les dérives sectaires et manipulations mentales. et qui a écrit avec le père Lecomte, qui ont écrit un petit livre très intéressant, enfin de témoignages avec quelques commentaires sur les dérives sectaires actuelles et les nouvelles thérapies. Il est là, hein, vous pouvez jeter un œil. Qui tout désir donner un pouvoir, hein, pour développer une puissance médiumnique, bien souvent, qui sont là justement, mais malheureusement, et on n'y prend pas assez garde, qui n'ouvrent pas à la transcendance divine, qui n'ouvrent pas au septième jour le repos de Dieu, pour lequel nous sommes tous faits, mais qui nous maintiennent dans le sixième, le chiffre de l'homme, 6, 6, 6, 666, c'est le chiffre de la bête. Cherchez pas chez Néron, il y en a certains qui ont dit c'est Néron, c'est Hitler, non c'est pas Hitler, c'est, ah non, ça peut être qu'un tyran, mais non c'est, vous savez, celui qui nous maintient sous une certaine tyrannie, c'est justement le chiffre de la bête, 666, c'est le serpent qui se mord la queue, qui est entièrement recroquevillé sur lui-même. Ce serpent qui est le prince du monde. Attention, quand on dit le prince du monde, on faut entendre le monde au sens où Saint Jean, hein, nous en parle. Hein, le monde de la convoitise, pas le monde des hommes, pas la création, vous voyez, hein. Le monde du dragon, qui apparaît d'ailleurs dans l'Apocalypse, vous savez, on le retrouve ce serpent, hein, mais sous la forme d'un dragon, qui est devenu alors maître des quatre éléments de la matière, l'eau, la terre, l'air et le feu. La puissance, vous voyez, son influence est devenue vraiment puissante dans le monde, hein. Même si, encore une fois, il faut comprendre que Jésus est finalement victorieux. Hein. En face du prince de ce monde, il y a le roi de l'univers. Hein. Et le roi de l'univers, c'est le Christ Seigneur, qui est victorieux. Hein. Donc voyez-le. Le serpent qui veut nous maintenir dans une horizontalité qui nous empêcherait, hein, de voir précisément ce pourquoi nous sommes faits, notre vocation divine, notre vocation à la vie éternelle, à la vie avec Dieu pour toujours. Hein? On l'a vu ce matin, nous sommes ordonnés à cette vie-là. Dieu a voulu, dès le premier instant de notre création, justement nous ordonner à cette vie-là. Et le serpent, son rôle, c'est de nous maintenir sous sa coupe, d'une certaine manière, sous son pouvoir, pour nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu. Voyez ? Dans le septième jour. Le serpent est également sinueux. Il a donc une capacité inouïe pour s'infiltrer dans les failles. Et lorsqu'il s'infiltre dans les failles, il ne peut pas reculer. Il ne sait pas me faire marche arrière. Pas de repentance possible donc pour le démon. Pas de conversion possible pour le démon. Oui, non, c'est impossible. Il est incapable de conversion, de retour en arrière. Voilà pourquoi on dit que le péché de l'ange est absolument irrémissible en ce monde comme en l'autre. Parce que lorsqu'il pêche, il pêche contre l'Esprit Saint. Il a une lumière absolue, absolue, infaillible sur l'acte qu'il peut poser. C'est une intelligence angélique, donc qui n'est pas comme la nôtre. Donc il a la connaissance absolue de la conséquence de ses actes. Ou de ses refus, etc. Voilà. Et lorsque l'ange, hein, a opté donc pour s'est refusé finalement à Dieu, eh bien, il ne peut plus revenir en arrière. Le serpent n'a pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille, le serpent. Et donc, il ne peut pas écouter la parole créatrice du Verbe en qui et par qui tout existe. Il est immergé dans le monde. Et il a bien de la peine à imaginer une transcendance. Or, l'écoute, c'est un terme extrêmement important dans la tradition juive. Elle est liée au tout premier commandement de Dieu, Shema Israël, écoute Israël. Le premier commandement, c'est l'écoute. C'est l'écoute, écoute. Une scène extraordinaire dans la Passion de Mel Gibson, c'est le premier mot de la Vierge Marie. Oui, ce fameux film qui ne serait pas écrit, qui serait horrible, et même antichrétien, ça a été dit. Premier terme. Vous voyez, quand Jean vient prévenir Marie et Marie-Madeleine, donc à la maison de Marie, dans la maison de Marie, on entend Jean arriver, il se précipite, il ouvre précipitamment les portes. Alors donc, Marie et sont réveillées par le bruit. Et qu'est-ce que dit Marie? Elle se lève, il y a un gros plan sur elle. « Shema Myriam, écoute Myriam. » Extraordinaire. Vous voyez, le premier mot de la Vierge, c'est la Vierge qui écoute, c'est « écoute ». Donc le premier de tous les commandements. Bien que ce soit un cinéaste américain. Donc, l'écoute, hein, Sham, c'est un élément essentiel de la révélation judaïque, mais aussi chrétienne. Oui, saint Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi provient de l'oreille qui écoute la parole et qui la garde, et qui se laisse façonner par elle. Simon-Pierre. Shimon, vous voyez, eh bien, contient justement la racine chat, vous hein, voyez. Eh bien, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est le premier disciple et le chef de l'Église. Il doit prendre à écouter la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il sait tout sur tout, lui. Il va apprendre à écouter. Et tout ceci est valable aussi pour nous, pour tous les disciples de Jésus. Simon, donc celui qui écoute, doit devenir Pierre. Dans la mesure où, comme tout bon disciple, il doit fixer sa maison sur le roc de la parole de Dieu. Pour devenir quoi? Ben une pierre vivante de l'Église. Tu t'appelleras Kephas, Pierre. C'est le nom que Jésus lui donne. Pourquoi? Eh bien, c'est dans Matthieu 7, quiconque entend ces paroles et les met en pratique, à quoi sera-t-il comparable? À un homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur le rocher. Vous voyez? Comme ça qu'on lit l'Écriture, vous comprenez? L'Écriture, c'est sans cesse, vous voyez, de vous être renvoyé, ça c'est très... C'est dans la grande tradition juive, la plus pure tradition juive, c'est-à-dire vous êtes toujours envoyé au même mot. C'est la même signification spirituelle et extraordinaire. Voyez. C'est pas écrit comme ça, vous savez. L'Écriture, c'est inspiré. Je vous renvoie à la très belle constitution dogmatique du Concile Vatican II, j'en parlais tout à l'heure avec une personne là, Dei Verbum, lisez Dei Verbum, c'est exceptionnel comme constitution dogmatique, pour comprendre l'inspiration, comment est-ce que Dieu a voulu nous parler, et quelle est l'inspiration de la parole de Dieu, c'est extraordinaire. La pluie est tombée, les eaux ont soufflé, les vents se sont déchaînés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur la pierre. Et c'est pour ça que nous avons les promesses, l'Église a les promesses de la vie éternelle. Voyez. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, car nous sommes fixés, l'Église est fondée sur le roc de la foi de Pierre, et sur la pierre angulaire qui est le Christ lui-même. Voyez. Donc, quels que soient les vents que nous pouvons traverser, les épreuves, la pluie, le tonnerre, l'orage, je ne sais, il y en a quand même au cours de l'histoire de l'Église, hein, vous avouerez, hein. Eh bien, nous devons avoir cette espérance extraordinaire que notre foi est fondée sur le roc, et c'est un roc absolument inamovible, parce que c'est le roc de la foi, et ce roc de la foi, il tient non seulement sur la foi de Pierre, mais parce que le roc, c'est le Christ, le roc. Et puis le serpent a aussi, donc il n'a pas d'oreilles, mais il a les yeux perpétuellement ouverts. Il n'a pas de paupières. Il ne dort, ni ne sommeille. Jamais. Sans cesse à l'affût. Mais plus encore, il n'a Dieu que pour le monde, la matière. Je vous l'ai dit, il ne vit que dans la perspective du sixième jour. Et il ne veut pas accéder au septième jour de la création parce qu'il refuse cette création de Dieu, surtout avec cet homme. Vous vous rendez compte, un esprit dans un corps, mais vraiment n'importe quoi. Vous voyez, la création. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de créer alors qu'il a... Il a les anges, les plus belles de toutes les créatures. Qu'est-ce qu'il a besoin de créer des hommes, pauvres hommes? Et voyez, le fameux 666 dont je parlais tout à l'heure, eh bien c'est le chiffre d'une création qui s'auto-alimente, qui n'a plus besoin de se recommander à celui qui l'a créé, et donc qui ne peut plus trouver son repos en lui. Et on voit bien cette, j'en parlerai plus tard, de cette substance féminine de l'humanité qui constitue sa religiosité. On voit bien que dans l'activité actuelle, je dirais frénétique et technologique, hein, où l'homme désire vraiment être maître du monde, il y a comme un activisme terrible, voyez, où finalement l'individu devient illimité. Voyez, mais il s'auto-alimente de sa propre puissance et jamais, jamais ne peut trouver le sommeil et le repos. Et là, je vous renvoie à un texte de Peggy qui est extraordinaire, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais auquel je vous renvoie dans le porche du mystère de la deuxième vertu, donc l'espérance, la deuxième vertu théologale, un texte extraordinaire de Charles Peggy sur le sommeil. Dieu contemplant l'homme qui dort et qui se réjouit de voir l'homme dormir. Parce que quand l'homme dort, il a confiance, il s'abandonne à Dieu comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère. Extraordinaire texte, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas je vous renvoie à ce texte extraordinaire. Voyez. Or à l'heure actuelle, non, il ne faut pas dormir le sommeil, non, il faut travailler toujours. Il faut être dans l'activité, il faut absolument travailler. La contemplation, mais écoutez, mon père, on n'a pas le temps. On a 24 heures quand même dans la journée. Ah ben non, on n'a pas le temps, vous savez, non, on n'a pas le temps de prier. Écoutez, arrêtez, priez, vous pouvez. Bon, c'est vrai que nos journées sont structurées, on a une heure le matin, une heure le soir. Bon, on a le luxe dans notre vie de border nos journées par la prière. C'est vrai qu'on a cette chance extraordinaire, mais et que tout le monde ne l'a pas, bien entendu. On ne demande pas à tout le monde d'avoir 2 heures de raison par jour, mais quand même, ce repos en Dieu extraordinaire, et qui est le repos de la contemplation, hein. Et puis les yeux du serpent sont capables d'hypnotiser. Tout le monde a vu le livre de la jungle de Walt Disney. Enfin, je veux dire, avec Sher Khan, le serpent, et Mowgli qui se laisse... Regardez-moi bien dans les yeux. C'est un super psychanalyste, hein. Super psychanalyste et manipulateur. Regardez-moi bien dans les yeux. Et puis là, extraordinaire, le livre de la jungle. Hein. Un des plus grands films de Walt Disney. Enfin, d'abord, il y a le livre de Kipling. Alors, Mowgli, au bout d'un moment, enfin, il se laisse pas faire, mais quand même, à un moment donné, il est quand même pas mal atteint, enfin, voilà, manipulé. Mais finalement, le serpent sera vaincu. Shere Khan, en tout cas, est vaincu. Cela dit, attention, le diable n'abandonne pas si facilement. Il est tenace et vous l'entendrez ce soir au Compli, c'est le capitule de Compli du mardi soir, hein, ce qui est tiré de l'épître de Saint-Pierre. Hein, le diable est comme un lion qui cherche à dévorer sa proie. Hein. Auquel il nous faut résister, dit-il, avec la force de la foi. Force de la foi. On va voir l'importance de la foi, hein, vous savez, hein, l'importance de la foi. Autrement dit, de la confiance en Dieu. Ce dont nous allons voir que donc, précisément Adam et Ève ont manqué. Et puis le serpent. Hein, le serpent, bien, il a une langue bifide. Hein. Ce qui signifie qu'il dit le vrai et le faux dans le même moment. Vous allez voir dans le texte de la Genèse, c'est frappant, c'est redoutable. Parce qu'il déclare à la femme qu'elle n'a pas le droit de manger tous les arbres du jardin. Ah, vous n'avez pas le droit de manger d'aucun arbre, même la vraie traduction verra, c'est d'aucun arbre du jardin. Ah non, attention, tous sauf un. Et donc, ah oui, mais ça ne veut pas dire, donc pas tous. Alors que c'est tous sauf un. Voyez. Alors que le Seigneur lui a défendu, mais pour son bien, hein, sous peine de mort, de ne pas toucher au seul arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez la subtilité, hein, du malin. Pas pour rien qu'on l'appelle aussi le malin. Il est le mauvais, mais il est le malin aussi. Et puis le serpent. Et dans la plupart des cas, venimeux. On le sait. Il est venimeux, le serpent. Hein, il y en a peu qui sont inoffensifs. Bon, il y en a, mais ils mordent en général. Là, ils se défendent. Même une couleuvre, elle vous mord. Pas de venin, mais elle vous mord. Dans la plupart des cas, donc, il y a le venin. Et là, le venin du malin, qu'est-ce qui nous inocule, le malin ? Ben, la mort. La mort. Il n'y a rien d'autre que la mort. Il est mortel. C'est un poison mortel. C'est un poison mortel. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, nous dit le livre de la Sagesse, chapitre 2. Ils en font l'expérience, ceux qui lui obéissent. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Voyez ? La mort n'est pas voulue par Dieu. Ce n'est pas l'auteur de la mort. Ce n'est pas Dieu. Ce ne peut pas être Dieu, vous comprenez ? Et puis le serpent est un animal ovovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs qui naissent indépendamment de leur géniteur. Autrement dit, le serpent se débrouille par lui-même pour vivre, il n'a pas besoin de parents. Oui, oui. Il s'initie par lui-même à la vie, par l'expérience qu'il en a. Très intéressant. J'entendais à midi, c'est l'expérience qui compte. Oh, attention, attention, pas seulement. Ah, à l'heure actuelle, il faut faire les expériences, toutes les expériences. Possible. Oh, le démon, il saura bien vous faire faire plein d'expériences pour vous éloigner de la source. Alors là, il en a des ruses et des... Il est très malin, vous savez, c'est un magicien. Un grand magicien. La poudre aux yeux, tout ça. Vous voyez ? Dans les nouvelles thérapies, les nouvelles croyances, il y en a beaucoup là-dedans. Médiumnité, tout ça. Vous savez, le pouvoir, le pouvoir. La magie, le pouvoir, ah, c'est extraordinaire, on a un pouvoir. Eh ? Pouvoir de te faire tourner les tables, là-haut, c'est anodin, ça, oh, bon, non. Spiritisme. Mais c'est de l'occultisme. Et attention à l'occulte. Hein ? C'est ce que dit l'Église sans cesse, attention à l'occulte. Parce que précisément, c'est le domaine du malin. Le domaine de Dieu, c'est le surnaturel. Ce n'est pas l'occulte. Le surnaturel. Alors vous voyez le prolongement spirituel qu'on peut faire. Justement, le diable, c'est celui qui refuse de se recevoir de Dieu. Il refuse la filiation divine. Il veut être autonome, sans dépendre d'aucune origine, ni d'aucun héritage. Il se construit tout seul. Il veut se construire tout seul, surtout pas dans la dépendance filiale avec le Père. Surtout pas. Et nous allons donc retrouver, nous reprenons le chapitre 3 de la Genèse, nous allons retrouver tous ces éléments, et notamment cette autosuffisance, cette indépendance absolue, c'est précisément ce que le diable va proposer à la femme. Voilà, et à l'humanité. Parce que pourquoi la femme d'abord ? Pourquoi est-ce qu'il tente la femme ? Vous pensez parce qu'elle est plus faible que l'homme, c'est ça ? Vous êtes bien misogyne, je trouve. Je vais vous prouver que l'Église n'est absolument pas misogyne, au contraire. Et le monde judaïque, d'abord, non plus. Pardon ?
C'est parce qu'elle est tirée du côté de l'homme, donc elle a déjà une forme de dépendance.
Ah non, 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 non. Pas du tout. Certains vous diront que d'abord, avant de créer le chef-d'œuvre, le Seigneur a voulu créer le brouillon. Et donc, je suis très hyper. Là, je suis. Bon, mais indépendamment de la blague, non, pas du tout. C'est parce qu'il y a une égalité, ish et isha, si vous voulez. C'est parce qu'il n'y a pas d'inégalité. Et puis, il y a justement, précisément, à la fois égalité et à la fois complémentarité. Vous voyez ? Hein, c'est une complémentarité, une égalité. Il ne faut pas du tout voir ça parce qu'elle a été créée après. Vous voyez, la cause seconde n'est pas toujours, comme je le disais ce matin, secondaire. Vous voyez, c'est pas parce que Ève a été créée après l'homme qu'elle est secondaire. Hein, elle vient après, mais elle n'est pas seconde. Et pourquoi ? Et bien parce que précisément, elle est la gardienne de la dimension religieuse de l'humanité. Pourquoi ? Eh bien parce que cette dimension se situe dans l'accueil du don de Dieu. Et cet accueil est de substance féminine. J'en ai pour preuve ce magnifique ouvrage auquel je vous renvoie de Gertrude von Lefort qui s'appelle « La femme éternelle ». Collection Foi Vivante aussi. Hein. Tous les livres que je cite en général sont pas chers, mais peuvent rapporter gros. Hein. La Foi Vivante non plus, c'est pas cher. C'est comme Dieu et son image que je vous ai cité ce matin. Hein. À portée de toutes les bourses. La créature, écrit-elle, a péché dans sa substance féminine, puisqu'elle a péché dans l'ordre religieux. Écoutez bien ça. Ce qui est proprement créateur, écoutez bien ça, hein, parce qu'on a des oreilles, nous, pour entendre, hein, mesdames, mesdemoiselles, ce qui est proprement créateur ne peut qu'être accueilli. Le monde est bien mu par la force virile, mais il ne peut être fécondé, au sens profond du terme, que sous le signe de la femme. Extraordinaire. Oui. Hein ? Ce qui est proprement créateur ne peut qu'être accueilli. Le monde est bien mu par la force virile, mais il ne peut être fécondé au sens profond du terme que sous le signe de la femme. C'est pour cela que dans la tradition juive, c'est la femme qui allume les lumières du Shabbat. Parce qu'elle est celle qui transmet la vie, et la vie est sacrée. Eh oui. Vous voyez qu'on est bien loin d'une vision misogyne, comme quoi c'est la femme, parce que franchement, elle a rien compris, vous voyez, alors évidemment, le démon, il peut s'en... Hein, pas du tout. C'est la plus proche de l'Esprit Saint, vous voyez. Eh oui, c'est la dimension religieuse précisément, parce que la dimension de l'accueil du don, c'est la dimension religieuse de toute l'humanité. L'humanité est féminine. Et elle ne peut se réaliser, s'accomplir que par la fécondation de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, la plus maternelle des personnes divines, comme disait le Saint Curé d'Ars, qui nous enfante à la vie de Dieu. Et le démon le sait fort bien. Il va insinuer le doute dans l'esprit de la femme. Le doute à l'égard du créateur, autrement dit, du donateur et du don. La tentation va porter sur le don. Voici l'argument du diable. Si Dieu vous a interdit de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est qu'il se réserve pour lui seul le privilège d'être Dieu, c'est qu'il veut vous maintenir sous sa domination, une domination jalouse de ses droits, avare de ses biens. Bref, Dieu est un despote, hein, dont vous devez vous émanciper. Et c'est l'argument du diable. Pourquoi ? J'emploie volontairement la traduction du père Barthélemy. Dieu vous a-t-il vraiment défendu de manger d'aucun arbre du jardin ? On traduit souvent de tous les arbres, mais d'aucun, parce que il y a, justement, c'est un sémitisme qui revient très très souvent, hein, dans la Bible. Alors il cite des tas d'exemples, le père Barthélemy, hein, dans Genèse 9:11, où Dieu promet à Noé que nulle chair ne sera plus détruite. Aucune chair ne sera plus détruite. Hein, le patous, donc, il signifie aucun. Le diable a une curieuse manière de poser la question, car ce n'est pas d'aucun arbre du jardin dont il était défendu de manger, mais d'un seul. Celui de la connaissance du bien et du mal. Mais le mensonge est si habile que la femme se laisse troubler par cette curieuse manière de voir. En effet, elle lui répond « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, c'est vrai ». Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Elle en rajoute, Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Il a dit, vous n'en mangerez pas. Vous voyez que la femme, déjà, elle est troublée. On voit bien qu'elle est troublée. Elle pervertit la vérité du commandement. D'abord, aussi, et le plus important, le plus terrible, c'est qu'elle a oublié l'arbre qui est au milieu du jardin. Oh, vous vous souvenez de l'arbre de vie dont je vous parlais ce matin? Où est-ce qu'il est l'arbre de vie? Ben, c'est plus que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Vous voyez comme elle est troublée? Ah oui, elle est troublée. Vous voyez le pouvoir hypnotique de Sher Khan? Vous voyez, c'est extraordinaire, ce pouvoir hypnotique. Vous voyez, en fait, finalement, l'auteur biblique veut nous faire comprendre la force de la convoitise, hein, qui va exercer justement sa fascination sur la femme. Elle est comme omnubilée par cet arbre interdit, jusqu'à en oublier la vraie vie de Dieu, qui lui est pourtant offerte sans compter. Dieu lui a interdit de manger du fruit de l'arbre et non pas d'en toucher. On voit qu'il y a non seulement une confusion entre les deux arbres, mais une confusion multiple, dont le diable, père du mensonge, est la source. Le père du mensonge l'appelle Jésus lui-même. Le père du mensonge. Père du mensonge. Alors il nous ment évidemment sous couleur de bien, toujours, sous couleur de bien. Et il va la convaincre par un mensonge extraordinaire on a pas encore, elle, dont elle n'a pas encore conscience, mais auquel elle va succomber, hélas, pour sa perte. Alors, mais non, vous n'en mangerez pas sous peine de mort. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. C'est le gros mensonge. Ça, c'est l'immense mensonge. Il n'y a pas de plus gros mensonge que celui-là. Il la persuade que finalement, de ne pas croire en Dieu, dans le commandement de Dieu, et finalement de le croire, lui. Ce qui établit le diable homicide depuis les origines, dit Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire homicide depuis les origines ? Non seulement il fait perdre à l'homme tous les privilèges surnaturels dont nous avons parlé ce matin, dont il jouissait dès le début de sa création, et l'homme et la femme vont se retrouver nus, précisément, d'une nudité spirituelle, bien entendu, spirituellement. Mais plus encore, il est homicide depuis la création, depuis les origines, parce qu'il détruit en lui, en l'homme, l'image du Père, en insinuant le doute dans son cœur, le doute sur la paternité de Dieu, qui est pourtant la source de la création elle-même. Dieu est Père. Voilà ce qu'écrit très bien Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voyez ? Et Dieu ne veut pas vous donner cette science. Il veut le pouvoir pour lui seul, la puissance dominatrice, la volonté d'exercer sa toute puissance sur vous. C'est un potentat. Dieu, le père du mensonge nous présente Dieu comme un potentat qui ne veut pas tout nous donner, tout l'héritage. Voyez ? Il ne veut pas nous donner tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mensonge est très subtil. C'est le malin, c'est le mensonge du malin. Alors, il joue sur le désir, qui est légitime en soi, de participer pleinement au mystère de l'existence et à la divinisation que Dieu veut pour l'homme. Et savoir, comme dit saint Jean de la Croix, être Dieu par participation d'amour. Vous voyez ? Dieu veut pour nous qu'on soit Dieu par participation d'amour. C'est pour ça qu'il nous a établis en état de grâce, dès le début, ordonné donc à cette vie qui ne finit pas, comme je vous l'ai dit ce matin. D'accord ? C'est ça la perspective, le projet bienveillant de Dieu, notre Père, sur nous. Et le diable, qu'est-ce qu'il propose, lui ? Il propose non pas de devenir Dieu, comme Dieu le veut, mais d'être un Dieu. Voilà la subtilité du mensonge du démon. Vous serez comme des dieux. Voilà la différence. Vous ne serez pas comme Dieu, vous serez comme des dieux. Hein ? Vous voyez ? Voilà la différence, très subtile, entre ce que Dieu et le diable proposent à l'humanité. Ou bien, pour Dieu, une ouverture à l'origine de toute vie, sans origine de la vie, qui est le Père, de qui vient tout don parfait, pour parler comme saint Paul, ou bien la fermeture. La fermeture justement à cette origine pour se construire sans limite, d'une manière entièrement autonome, dans une autosuffisance orgueilleuse qui ne tient pas compte de la source divine de l'humanité. Et pourtant sur laquelle l'humanité, comme un fleuve coupé de sa source. Qu'est-ce que devient un fleuve coupé de sa source ? Il se tarit, il se dessèche. J'aime beaucoup cette phrase de Jérémie, « Ils se sont creusés des citernes percées qui ne retiennent même pas l'eau. » On ne retient plus l'eau de la grâce. Et justement, l'eau de la grâce, par la faille de ce mensonge, elle va se tarir. la source de la grâce, l'eau de la grâce se tarit et finalement, eh bien, l'homme se dessèche, se recroqueville sur lui-même, mais finalement, sans l'eau vivifiante de l'Esprit Saint, vous savez, c'est une des appellations, l'eau vive, la source d'eau vive jaillissant pour la vie éternelle dont parle Jésus à la Samaritaine. Sans l'eau vivifiante de l'Esprit Saint, de l'arbre de vie, du paradis, de la grâce, eh bien le cœur de l'homme se dessèche et finit par mourir de mort spirituelle. Alors que, je vous l'ai dit ce matin, Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il meure de mort, mais qu'il meure d'amour. Pour cela que nous avons été créés, pour vivre et mourir d'amour. L'homme dans sa chute donc reproduit le péché de l'ange qui fut aussi un refus de participer à une béatitude surnaturelle gracieusement offerte pour réaliser son propre bonheur par les moyens de sa propre nature angélique. Or ce que Dieu demande tant aux anges qu'aux hommes, eh bien c'est d'accepter leur condition de créature pour devenir ses enfants, mais ce par grâce, comme un cadeau offert gratuit dont ils n'ont absolument pas la main, la maîtrise, voyez. Qu'ils ne peuvent recevoir que par une ouverture totale de leur être à la source de la vie. Est-ce que vous comprenez cela ? Ce que Dieu demande aux anges comme aux hommes, donc, c'est d'accepter cette limite de la créature, mais pas pour être limités à eux-mêmes, pour s'ouvrir par grâce à celui qui leur propose la vie, l'infini, la vie éternelle, mais qu'ils ne peuvent pas avoir par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent que recevoir, parce que, et c'est pour cela que l'humanité est religieuse dans sa substance féminine. L'homme a besoin d'être sans cesse fécondé par celui de qui elle tient la vie, le mouvement et l'être. De qui l'homme tient la vie, le mouvement et l'être, vous comprenez ? Les mauvais anges, nous dit Jean-Miguel Garrigue dans un autre livre que Dieu sans idée du mal, c'est Le monde invisible des anges. Tout petit livre aussi, pas cher du tout, aux éditions de l'Emmanuel. Le monde invisible des anges. Voilà ce qu'il nous dit. Les mauvais anges sont tombés, parce qu'il y en a des bons, hein. Tous les anges ne sont pas pervertis, hein. Il y en a des bons, bien sûr, hein. Mais les mauvais anges sont tombés parce qu'ils se sont exclus de la volonté divine, autrement dit du cœur de Dieu. Leur péché a été le péché contre le Saint-Esprit, écoutez bien, qui ne consiste pas à refuser telle ou telle condition morale, parce que c'est le cas de tous nos péchés, et tous nos péchés ne sont pas des péchés contre le Saint-Esprit, qui est irrémissible, vous savez, en ce monde comme en l'autre. Hein. Bon, hein ? Non, bien sûr. Mais à refuser, écoutez bien, l'amour comme don purement gratuit. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. C'est de refuser l'amour comme don purement gratuit, cet amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, comme dit Romains 5:5. Satan a donc refusé la grâce, l'appel à accepter de se recevoir complètement comme enfant de Dieu, sans prétendre avoir droit à quoi que ce soit de sa part. Sa part. Encore une question de part d'héritage, vous voyez. Part d'héritage, hein, dont nous avons parlé ce matin, vous voyez, c'est part d'héritage qui constitue justement la convoitise par laquelle le diable va tenter l'homme. Dieu veut tout donner et l'homme veut sa part de l'héritage. Comme si le Père pouvait se diviser en parts. De part en part. Permettez-moi ce petit jeu de mots. Bon. Saint Thomas d'Aquin On pourrait aller voir dans la somme théologique, alors là c'est un petit plus consistant que Jean-Miguel, enfin que le volume, que les volumes de Jean-Miguel Garrigue, hein, parce que la somme théologique il y a quand même plusieurs tomes et plusieurs milliers de pages. Bon, mais c'est, on peut aller voir seulement des questions, hein, c'est la prima pars, donc question 63 à la réponse, responde Néo. Sur la chute de pourquoi Lucifer, hein, a péché. Comment est-ce qu'il a finalement, quelle a été la faute de Lucifer, hein? Alors il indique tout d'abord que Satan, plutôt Lucifer, donc a péché en désirant être comme Dieu. Bon, voilà. Mais attention, non pas d'un désir d'égalité. Comme si l'ange avait désiré la nature même de Dieu, car il savait, dit saint Thomas, de connaissance naturelle, que c'était impossible. On ne peut pas devenir calife à la place du calife, donc ce n'est pas possible ça. Dieu est par nature, il est Dieu, donc une créature, elle ne peut pas par nature devenir Dieu. Ce n'est pas possible, vous comprenez ça? Dieu, il est Dieu et les autres ne sont pas Dieu, vous comprenez? Les anges, même le plus bel ange, il ne sera pas Dieu, non. Par nature, vous voyez, par nature. Il a voulu être comme Dieu, non pas en tant qu'il a prétendu naître comme Dieu, soumis à qui que ce soit, sa nature angélique lui manifestant, tout comme à l'homme qu'elle dépend de par le don de son acte d'être, de son existence, de celui qui le lui donne, hein, l'être existant par lui-même, Dieu lui-même, hein, qui est l'être existant par lui-même, mais que le démon a voulu ressembler à Dieu. Attention, écoutez bien. Il a voulu ressembler à Dieu. Comment ? En désirant comme fin ultime de sa béatitude ce à quoi il pourrait parvenir par ses propres forces naturelles. Par ses propres forces naturelles. Et en détournant donc son désir de la béatitude surnaturelle, écoutez bien, qu'il ne pouvait recevoir que de la grâce de Dieu. C'est exactement la même chose que pour l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voulez que je répète ça? Parce que c'est très important. Hein? Le démon a voulu ressembler à Dieu en désirant comme fin ultime de sa béatitude ce à quoi il pouvait parvenir par ses propres forces naturelles, hein, et en détournant donc son désir de la béatitude surnaturelle, autrement dit, il se borne à lui-même. Il se trouve tellement beau dans sa nature angélique, ouais, mais il ne sait pas que justement ce que lui a préparé Dieu aussi, c'est bien plus beau que ce qu'il pressent lui, mais il se préfère à Dieu finalement. Il préfère sa béatitude naturelle à celle que Dieu lui propose, à l'infini de Dieu, voyez. Hein? Donc, en détournant son désir de la béatitude surnaturelle, qu'il ne pouvait recevoir que de la grâce de Dieu. C'est très beau, ça, vous voyez. Autrement dit, continue, la ressemblance avec Dieu que donne sa grâce, le démon a voulu l'obtenir par les forces de sa nature, et non de l'intervention de Dieu, et selon les dispositions prises par lui. C'est la mainmise, là. Le démon veut voler ce qui ne lui appartient pas. Et en même temps, si, ce qui lui appartient, parce que Dieu nous a donné à nous-mêmes, hein, et on est libre de faire absolument ce qu'on veut de nous. L'acte d'être, l'existence que Dieu nous donne, c'est un don sans retour de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, mais alors pourquoi le démon, il ne le fait pas disparaître? Il ne peut pas, les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu ne crée pas pour détruire. Encore une fois, je vous l'ai dit, il est sans idée du mal. Il ne sait pas ce que c'est que détruire. Qu'est-ce que vous croyez? Mais ne faisons pas un Dieu à notre image. C'est le contraire. Hein, c'est Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Évidemment, par le péché, bien entendu, on l'a un peu perverti, cette image et cette ressemblance, bien entendu. Mais, voyez, hein, Lucifer, donc, en refusant la grâce de Dieu, s'est perverti. Il est devenu hostile à Dieu et au dessein de son amour bienveillant. Hein, sur la création, précisément, sur les hommes. Toute la création. Et donc, il veut maintenant exercer une influence maléfique sur les créatures de Dieu que sont les hommes. Le mensonge du diable et le péché de l'homme, c'est de faire croire pour le diable et de croire pour l'homme qu'il peut se suffire à lui-même. Indépendamment du secours de la grâce de Dieu, qui est un don gratuit dont l'homme n'a pas la maîtrise, dont l'homme n'est pas propriétaire. Est-ce que vous comprenez cela ? Parce que c'est très important. Grâce gratis. Hein, comprenez, grâce gratis. Donc ce qui est gratis ne peut pas être chose que gratis. Voyez. Moi je dis toujours, Dieu rince gratis au bar de la miséricorde. Voyez, mais si, voilà. Venez si vous avez soif sans rien payer. Il faut avoir soif, mais sans rien payer. Et le Seigneur, si vous n'avez pas d'argent, sans rien payer, il vous donnera gratuitement son amour. C'est cela, c'est en cela que c'est scandaleux la miséricorde. Tout l'évangile, c'est scandaleux précisément. Vous savez, rappelez-vous les ouvriers de la dernière heure. Mais enfin, ils ont quand même travaillé beaucoup moins que nous. Ben oui, mais on était convenus du même prix. C'est la vie éternelle pour tous, hein, vous savez. M'appelles-tu mauvais, mais tu m'appelles mauvais. Mais ce n'est pas parce que ton œil est mauvais et que moi je suis bon. J'aime beaucoup ça. On a tendance à toujours réduire Dieu à nos petits contrats. Entre amis ou ennemis. Mais il n'est pas comme ça, Dieu. Il n'est qu'amour et miséricorde. Voilà, comme dit la petite Thérèse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre et donc et se laisser prendre, comprendre, se laisser prendre avec Dieu, se laisser saisir par lui, parce que précisément on a du mal à comprendre ce qu'est véritablement l'amour divin. Donc on voit que le diable entraîne l'homme dans son propre péché, sa propre chute. Le péché de l'originel, hein, est né pour l'homme comme celui de Lucifer, d'une malice de l'esprit, un péché d'orgueil, de démesure, né d'une convoitise, qui consiste en une volonté d'indépendance absolue par rapport à Dieu, sans la considération de ses limites de créature. Des limites qui ne sont pas des obstacles à l'amour et au bonheur, mais qui sont la condition d'un enfantement à la vie de Dieu, dont Dieu ne peut être toujours que le principe. Ce qui n'est pas possible, c'est de désirer être notre propre principe, d'être notre propre père, vous comprenez ? Et c'est ça la folie du péché originel, vous voyez ? Et comme la folie, c'est être finalement créateur de nous-mêmes. Et se rendre donc centre de soi-même et indépendamment du secours de la grâce, hein. Donc l'essentiel est de retenir donc, conclut le père Philippe de la Trinité, qu'il y eut bel et bien contre Dieu révolte volontaire, hein, c'est l'article que je vous citais déjà ce matin dans les études carmélitaines, Amour et violence, Dieu de colère ou Dieu d'amour, qu'il y eut bel et bien contre Dieu révolte volontaire à l'instigation de l'esprit menteur dans le but orgueilleux de délimiter contre la loi divine elle-même les frontières du bien et du mal. Nous retrouvons de nos jours, avec une force redoutable, cette tentation diabolique qu'a l'homme de vouloir se construire par lui-même en dehors de ses limites de créature. Il n'y a plus de limites, no limit. No limit. Rêve prométhéen de vouloir s'emparer par soi-même du divin, sans l'aide de Dieu. Et c'est là le mensonge du diable, nous faire croire que nous pouvons nous accomplir en dehors de Dieu. Être des dieux, Hérétis, sicut di, vous serez comme des dieux, alors que l'intention de Dieu, depuis toujours, depuis notre création, c'est de nous diviniser, de nous rendre semblables à lui, mais ceci par participation d'amour, dans une croissance de communion d'amour. Et non pas nous emparant avec impatience d'une auto-divinisation de notre part, vous voyez, d'une part d'héritage, mais qui ne peut finalement nous conduire qu'à la mort. Nous ne pouvons participer à la vie de Dieu qu'en restant ouverts de tout notre être à la source paternelle divine qui en est le principe, sans laquelle, eh bien, le fleuve ne peut que se tarir. Tout homme tire son origine d'un principe premier sans lequel il n'existerait pas. J'y reviens encore, c'est la métaphysique de l'existence, ou métaphysique de l'exode, dont parlait Étienne Gilson. Je suis celui qui est, et il donne d'exister à tout ce qui existe. Résumé par cette petite phrase magnifique dont saint Thomas a le secret, aliquid est ergo deus est. Toute la métaphysique de saint Thomas tient dans cette petite phrase. Alors je répète, aliquid est ergo deus est, ce qui veut dire quelque chose existe donc Dieu existe, ce qui veut dire que rien n'existerait si Dieu ne n'était la cause de son existence. Ceci est de la métaphysique, mais c'est vrai que maintenant on ne veut plus trop en faire. Bon, Dieu ne veut pas nous écraser sous sa toute-puissance. Il veut nous faire participer à ce qu'il est, non pas en s'imposant à nous, ce qui serait contraire à l'amour, mais dans la mesure où nous consentons à accueillir sa vie comme un don gratuit dont nous sommes les bénéficiaires, et à condition de rester toujours dans l'ouverture confiante d'un enfant qui ne peut grandir sans l'aide de son père. C'est exactement ce qu'un père jésuite, le père Monnier, déclarait dans l'une de ses prédications enflammées. C'était un petit père jésuite qui faisait beaucoup de prédications, mais qui était très enthousiaste, pétri d'évangile. Et il faisait dire à Dieu, « Mon petit », il prêchait avec des mots très simples, c'est magnifique, « Mon petit, je te donne tout. » Vous voyez, c'est voir un père, vous voyez, Dieu, voilà, Dieu le Père. « Mon petit, je te donne tout. Tu es mon héritier, voyez l'héritage. Mais, attention, il est une chose que je ne peux pas te donner. Non, non, je ne peux pas, d'accord ? Je ne peux pas ça. C'est d'être ton propre père. Ton principe, ta raison d'être, ne prétends jamais être ta propre source. Tu ne peux rien faire de toi-même, tu ne peux pas te ressourcer. Extraordinaire. Tourne-toi vers moi et n'oublie jamais que je tiens tout ce dont tu as besoin. Saint curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Tout, oui, tout. Ah bon ? Eh oui, tout. Parce qu'il reçoit tout de lui. La vie, le mouvement et l'être. Je suis très heureux que le père Jean soit là, hein, parce qu'il a été mon professeur de philosophie. Alors, là, il y a quelques années de cela. Et je me souviens de discussions enflammées, justement, qu'on avait ensemble. Aujourd'hui, nos limites ne sont plus recevables. C'est, je vous l'ai dit, le pas de limite, no limits, qui se substitue à nos propres limites. Voyez, on a des limites, ce sont les nôtres, mais le problème, c'est qu'on ne veut pas de... Bon, c'est un jeu de mots sur lequel, d'ailleurs, joue pas mal le mouvement, enfin, l'initiateur du mouvement des veilleurs, qui est Gauthier Bess, et qui a écrit un livre que je vous recommande. Il y en a à la porterie, encore, quelques-uns. Alors là, c'est vraiment pas cher, il vaut à peine 3 euros, vous voyez, c'est pour vous dire. Hein. Ça s'appelle « Nos limites ». Voilà. Alors, il parle du fantasme démiurgique de l'homme autoconstruit. Autrement dit, de l'homme qui se veut Dieu et qui est le grand fantasme de notre monde actuel. Cet homme plastique qui se façonnerait lui-même au gré de ses envies est un vieux songe. Se rêvant infiniment malléable, certains parlent de liquide même, hein, l'homme liquide. Hein. Il aspire à se définir lui-même, à être à lui-même sa propre cause, à ne plus rien devoir qu'à soi-même, y compris soi-même. C'est une citation de Gustav Enders, L'homme obsolète. Je vous recommande ce livre magnifique de Gustav Enders, L'homme obsolète. Un livre philosophique tout à fait prophétique. Ne plus rien devoir qu'à soi-même, y compris soi-même. C'est génial comme définition du péché originel. Être source de soi-même. Voyez, hein, L'empire de l'artificiel, poursuit Gauthier Bess. Il a à peine 30 ans, hein, le Gauthier Bess. C'est plein d'espoir pour cette jeunesse actuelle. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse actuelle et que le Seigneur prépare justement des témoins, des prophètes. Alors là, il ne faut surtout pas être désespéré. Hein. L'empire de l'artificiel se développe dès lors qu'on récuse le fait que notre être nous borne. Autrement dit, nous n'acceptons plus que nos désirs, le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, soit limité par un quelconque donné, le monde tel qu'il est, a priori, indépendamment de notre subjectivité. Hein, Père Jean ? Le véritable ennemi, c'est l'idéaliste, nous le savons. Mais l'individu, de tous les possibles, n'est l'homme d'aucun réel. Extraordinaire. L'individu de tous les possibles n'est l'homme d'aucun réel. Voyez le problème, et c'est le réel qui nous mesure, mais nous ne voulons pas tenir compte des limites que nous impose le réel. Et c'est là où le bât blesse, vous comprenez ? Donc on voit bien que l'homme peut s'interposer librement en face de son créateur, car il est réellement et totalement libre. Alors quelles sont les conséquences de cette révolte ? Eh bien, ils virent qu'ils étaient nus. Voilà, c'est les conséquences de... C'est... Non, vous me laissez encore m'accorder encore quelques minutes, ça va ? Vous n'êtes pas trop... Vous n'êtes pas... Non, il y en a qui pensent que c'est... Hein ? Non, ça va ? Bon. Quelles sont donc les conséquences d'une telle révolte ? Eh bien, donc, Adam et Ève virent qu'ils étaient nus, hein, chapitre 3, verset 7. Alors, cette nudité, quelle est-elle ? Eh bien, elle est à chercher, à mon avis, du côté du dénuement, ou du dépouillement, plutôt. Il est d'ordre tout à fait symbolique, ou métaphorique, si vous voulez, hein, comme les deux arbres du jardin, encore je le répète ce matin, attention, hein. Bon. Bien qu'ayant toujours un ancrage dans le réel, attention. C'est pas parce que c'est métaphorique que c'est pas réel, attention. Qu'il n'y ait pas un ancrage dans le réel. Vous savez, les poètes, c'est ce qu'ils font. Ils font des métaphores dont, à partir du réel, ils transforment. C'est ça, mais c'est du réel transformé. Mais c'est toujours du réel. Hein ? D'accord. C'est ça, la métaphore poétique. Bon, pour ceux qui aiment la poésie, encore, je sais, il n'y en a plus beaucoup. Bon. Celui qui est nu est vulnérable. Il n'a rien pour se défendre. La nudité donc exprime d'abord cet effondrement du personnage que la parure s'évertuait à créer. Hein, c'est une citation de Anne Lécu, donc dans « Tu as couvert ma honte hein. ». Très beau livre, justement, sur le vêtement, la nudité et le vêtement. Très intéressant. Donc, tout un parcours biblique à travers ce thème. Très intéressant. L'homme ayant rompu le climat de confiance avec son Père des cieux, eh bien, il se retrouve face à lui-même, comme un roi déchu de son trône, dépouillé de ses droits et privilèges, appauvri, réduit à la honte et à la peur du jugement de Dieu en plus. Autrement dit, il est nu. C'est d'abord la vulnérabilité, la nudité. Justement, que l'on couvre, justement. Hein, et c'est le grand thème de Anne Lécu, c'est de dire que dès le début, eh bien, le père prend soin de couvrir, par les vêtements de peau, etc., de couvrir la nudité de l'homme, voyez, hein, la honte de son péché. Extraordinaire. Ayant rompu le lien filial et l'abandon confiant entre les mains du père, dont l'amour est l'unique trésor véritable, l'homme s'est fermé à sa source d'eau vive et récolte les fruits amers de son doute et de sa désobéissance. En voulant devenir un Dieu, il s'est coupé de cette relation d'ouverture totale et confiante qui lui aurait seul, assuré la vie. C'est le père Barthélemy qui parle ainsi. Extraordinaire, voyez. Je répète, en voulant devenir un Dieu, il s'est coupé de cette relation d'ouverture totale et confiante qui lui aurait seul assuré la vie. Hein ? En effet, en rejetant le don de la grâce au point de ne vouloir rien d'autre que ce qu'ils ont par eux-mêmes, de vouloir tout trouver en eux-mêmes, tout tirer d'eux-mêmes, tout obtenir par eux-mêmes, nos limites, voyez, par leur seule capacité naturelle, en ne dépendant que d'eux-mêmes, eh bien Adam et Ève se privent par orgueil spirituel de ce que Dieu ne peut leur communiquer que par grâce. La participation à sa propre vie divine. Désormais, l'homme perd l'accès à l'arbre de la vie. Il y a donc coupure, il y a mort de l'âme, comme dit un concile, hein, il y a mort de l'âme dans la mesure où, il faut entendre, pas les puissances naturelles de l'âme, mais en tant que l'âme, eh bien, est le principe spirituel, si vous voulez, l'esprit, par lequel l'Esprit Saint, par lequel nous sommes liés à l'Esprit de Dieu, voyez, sur le plan surnaturel. La nature humaine, il n'y a pas d'injustice, voyez, dans le péché originel. La nature humaine se refuse librement à la grâce, qui est gratuite, qui pouvait seule lui assurer la vie béatifique. On n'en veut pas. Bon, bah, Dieu, comme un amant est conduit, je vous l'ai dit, bah, il se retire, qu'est-ce que vous voulez Dieu nous dit sans cesse, je t'aime. Et nous, on dit, mais moi, je t'aime pas. Non, on lui dit, je m'aime. Lui il dit je t'aime, moi on dit je m'aime et je n'aime que moi. Comme dit, j'ai toujours cette blague d'une pensée de Pierre Dac, à ceux qui se demandent, aux métaphysiciens qui se demandent qui je suis, où je vais, d'où je viens et où vais-je, je réponds je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Alors bon, mais au-delà de la blague, vous voyez, c'est une blague à la Pierre Dac, mais ça ne veut pas rien dire non plus, voyez. C'est-à-dire l'homme est recroquevillé complètement sur lui-même. Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Hein, et il ne veut plus entendre parler de la métaphysique, hein, c'est fini, non, la métaphysique, non. Tout doit partir de lui-même. Même la vérité des choses, ça doit venir de lui, d'une manière innée. Bon. L'homme donc est venu, vous voyez, c'est pour ça que saint Thomas dit « Dieu est la cause première du bien, l'homme est l'ange », évidemment, comprenez bien, l'homme qui a succombé à la tentation de l'ange est la première cause du mal. Parce que le mal, c'est finalement vient pervertir ce qui est bien. Le mal, c'est une privation de bien, c'est un manque de bien. Mais le mal n'existe pas par lui-même, il n'existe que par rapport au bien, vous comprenez bien. Hein, c'est une privation de bien, ou une perversion de bien. Donc, c'est le manque de la plénitude que le bien aurait pu nous apporter, mais que l'on vient briser par notre refus d'y consentir. Alors il faut bien comprendre que l'homme a une vocation surnaturelle. Dieu nous a tous prédestinés, je le disais ce matin, à entrer dans sa vie. Il n'y a de nature humaine coordonnée à cette vocation ultime. Mais le péché originel, voyez, vient briser cette ordination surnaturelle. Elle vient briser les moyens d'atteindre la finalité de cette ordination de notre nature à une fin surnaturelle. Vous comprenez bien, nous sommes toujours ordonnés à la vie éternelle. Mais nous n'avons plus les moyens de l'atteindre, puisque le moyen, nous l'avons refusé, c'est la communion avec Dieu, la grâce. Vous voyez ? On dit que la nature qui était intègre, sortie des mains de Dieu, et créée en état de grâce, elle était intègre, est devenue déchue. On parle donc, après le péché originel, d'une nature déchue. Pas déchaux, hein. Déchus. Il y a les carmes déchaux. Bon, un peu, ils sont déchus comme les autres, hein, vous savez. Ils sont déchus comme les autres, hein, mais... Enfin, déchus et sauvés, rachetés, heureusement. Hein, attention, je vais mettre en parallèle le Christ sauveur. Attention, hein, je parle du péché originel, mais effectivement, ça peut être un petit peu désespérant si on ne met pas en regard eh bien, celui qui vient nous en sauver. Hein, mais voilà. Et nous rendre justement la grâce perdue. Hein. Donc, on peut dire que Eh bien, en péchant, l'homme a manqué le but, la cible. C'est ce que ça veut dire d'ailleurs pécher, c'est manquer la cible. J'aime beaucoup la définition du péché par saint Jean de la Croix, c'est manquer à Dieu. Je trouve ça magnifique. Non seulement parce que vous manquez la cible, mais parce que vous lui manquez. Eh oui, parce que le premier à souffrir de notre éloignement dans le pays de la dissemblance, comme l'enfant prodigue, qui a pris sa part d'héritage. Rendez-vous compte, il va voir son père. Il n'est pas encore mort, son père. Vous imaginez un père qui voit arriver son fils. Bon, bah, papa, tu vas me donner ta part d'héritage. Hein. Bah, je ne suis pas encore mort, mais c'est pas grave. Donne-moi ta part d'héritage. J'y ai droit. Oui. L'enfant prodigue, qui part dans le pays de la dissemblance, c'était le mot Saint Jean de la Croix, de Saint-Augustin, manquer à Dieu. Eh bien, nous manquons à Dieu. Nous manquons à Dieu. Nous lui manquons terriblement, puisque justement, il nous a créés pour que nous puissions participer à ce qu'il est, lui le Père. Et notre vraie part d'héritage, c'est lui le Père, dont nous avons manqué, pour lequel nous avons manqué de confiance, autrement dit de foi. Et c'est là où je voudrais en venir. Dans le protévangile, ce qu'on appelle le protévangile, dans Genèse 3,15, il y a une promesse consolante de Dieu pour l'homme, qui dit: je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Il dit ça au serpent. Entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Hein ? Vous savez que le serpent, le seul moyen de le tuer, de le rendre inactif, c'est de le taper sur la tête. C'est-à-dire, il faut taper sur la tête. Hein. Ah oui, parce que si le corps, ça va, c'est la tête qu'il faut atteindre. Hein. C'est pour ça que, eh bien, la Vierge Marie est souvent représentée, vous voyez, comme celle qui, la femme de l'Apocalypse, précisément, vous l'avez dans l'Apocalypse, qui écrase le dragon. Hein. Voilà. Donc, certes, il y a la faute. Et c'est vrai que, bien souvent, l'humanité ressemble à cet ardent sanglot dont nous parle Baudelaire. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la poésie, tant pis, mais moi je l'aime. Et surtout la poésie, quand elle se fait musicale, comme avec Baudelaire. Et maintenant, on ne sait plus faire de la musique avec des mots, c'est bien regrettable. Pourtant, c'est ça la poésie. Et c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions offrir de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. C'est dans Les Phares. C'est un poème qui s'appelle Les Phares dans les fleurs du mal, qui est splendide. D'ailleurs, vous savez que Baudelaire disait que la vraie civilisation, c'est dans le cœur Misanus, extraordinaire, ne réside ni dans les becs de gaz, ni dans la vapeur, donc toutes les inventions nouvelles de ça, ni dans les tables tournantes, ni dans, vous voyez, dans les déviations de l'espiritisme, non, mais dans la diminution des traces du péché originel. Mon cœur mis à nu, Charles Baudelaire. Bon, ceux qui douteraient encore du catholicisme de Charles Baudelaire. Bon. Bon, évidemment, un peu dévoyé, c'est sûr. Mais quand même, toujours, vous voyez. Et la civilisation ne réside ni dans les becs de gaz, ni dans la vapeur, les tables tournantes, mais dans la diminution des traces du péché originel. Voilà le vrai progrès, frères et sœurs. Extraordinaire. J'adore cette phrase. Bon. C'est tellement en dehors de ce qu'on entend. Voyez. Oh non, mais avançons l'histoire, l'humanité doit avancer, c'est, voyez, le progrès qui va nous apporter, voyez, ça, le bonheur. Les communistes aussi, ils y croyaient. Hein. Mourons pour la cause, et faisons mourir aussi pour la cause, mais la cause, elle va venir, vous allez voir, dictature du prolétariat, et enfin, on sera heureux. Je vous renvoie à non pas au crime et châtiment Dostoïevski, mais au possédé de Dostoïevski, hein, les démons. Hein. Tiens, c'est bien d'en parler, vous voyez, les démons, ça s'appelle le titre original, ou les possédés, hein, encore un bouquin, évidemment, il y a deux tomes aussi, mais c'est toute la préfiguration dans ce livre de toutes les hérésies qui vont venir, et que Dostoïevski pressent, et dont il nous alerte. C'est extraordinaire. Hein, toutes les hérésies politiques qui vont frapper son pays. Hein. Extraordinaire. Les possédés de Dostoïevski. Bref. Mais cet ardent sanglot de l'humanité, Dieu, eh bien, n'est pas insensible, n'y est jamais insensible. Vous voyez, il ne veut pas notre malheur. Hein. Un pauvre cri, le Seigneur entend, dit le psalmiste. Hein. Le Seigneur donc entend le cri des pauvres et des malheureux. Hein. Il n'a pas fait l'homme pour le malheur, mais encore une fois, sagesse 2:23, pour l'incorruptibilité. Il a fait de l'homme une image de sa propre nature. Voyez, hein ? Donc il ne faut jamais lire, et je voudrais terminer par là, hein, il ne faut jamais lire le chapitre fondateur de la Genèse, enfin le chapitre pas fondateur, parce que c'est encore, le chapitre fondateur c'est la création, mais le chapitre donc qui nous parle de l'origine du mal, hein, et de la mort, sans mettre en parallèle le salut accompli pour tous dans le Christ Jésus, voyez, hein. Et voilà pourquoi je terminerai en expliquant cette phrase que nous chantons, que l'Église chante dans la nuit de Pâques, bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Alors il faut bien comprendre cette phrase, hein, attention, hein. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, c'est quand même gonflé, hein. Bienheureuse faute, vous rendez compte? Alors, il ne s'agit pas de croire que la faute nous a mérité le Fils de Dieu, que nous n'aurions pas eu autrement sans elle. Oui. Ce serait penser que le mal, ce mal que Dieu ne peut pas concevoir, puisqu'il est sans idée du mal, hein, le bien sans limite, et que le mal est un manque, hein, ce serait donc penser que la faute vaudrait à notre humanité une finalité nouvelle, hein, que Dieu nous donnerait par le Christ notre surélévation en gloire. Non, je vous l'ai dit, dès le début on est ordonné à la gloire. D'accord ? À cause de notre péché, dit le père Garrigue, il se trouve que c'est par l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu que s'est accomplie la manifestation du mystère qui constitue l'économie de la plénitude des temps. Mais celle-ci, de toute façon, se serait accomplie sans le péché. Celle-ci se serait accomplie sans le péché, mais alors sans le chemin des douleurs, de douleurs et de larmes de l'humanité, et sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc comprendre cette phrase ainsi, heureuse cette faute à laquelle Dieu a répondu en la réparant par son Fils donné comme rédempteur. Vous voyez, bon, c'est un petit peu subtil peut-être. Hein. Vous voyez, ce n'est pas la faute qui cause, même si c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Mais de toute manière, le Christ était celui vers qui toute l'humanité convergeait, le chef de l'humanité. Donc de toute façon, même sans le péché, nous étions ordonnés. Alors maintenant, le Christ est toujours celui qui récapitule toute l'humanité, mais cette humanité du Christ, forcément par le péché, devient souffrante. Et elle nous manifeste la grandeur infinie de l'amour de Dieu pour nous, sa miséricorde, qui en dépit de notre misère, cette misère que nous avons librement choisie en refusant la grâce, Dieu veut nous la rendre parce qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants et que son dessein bienveillant, eh bien il peut aussi le reprendre, le ressaisir en lui, en se donnant lui-même à nouveau, et lorsqu'il se donne lui-même, eh bien, il va se donner dans son Fils, le rédempteur de l'homme, voyez. Et c'est par le Fils, et c'est dans le Fils, que l'homme va revenir à Dieu pour retrouver la maison du Père et devenir fils du Père à nouveau par participation d'amour dans le baptême de son Fils, voyez. Est-ce que c'est... Bon, j'ai essayé de faire un parcours, assez vaste, mais j'espère que vous voyez ce qu'il faut retenir, hein, c'est que euh, finalement, l'homme, pardon, Dieu reste fidèle absolument à son dessein d'amour. Hein? Dieu ne change pas. L'homme peut changer, mais Dieu ne change jamais. Il ne change jamais sa perspective, si vous voulez. Et cette perspective, pour nous, elle est immense. Elle est infinie. Dès le début de la création, Dieu a pour l'homme un dessein qui dépasse sa propre capacité naturelle, qui dépasse ses propres forces, pas sa nature humaine, puisque, comme je vous l'ai dit, Dieu nous a créés avec la grâce, pour être ordonnés précisément à cette vie avec lui, participer à ce qu'il est, d'accord ? Mais donc, Dieu, si l'homme est infidèle à ses dons reçus, Dieu reste fidèle à lui-même, vous voyez, hein, cette phrase magnifique de saint Paul, si l'homme est infidèle, Dieu lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même.